On a, avant de faire le président des riches, on avait déjà travaillé pendant 20 ans sur la classe dominante, c'est-à-dire sur cette classe qui concentre toutes les richesses et tous les pouvoirs dans notre pays. Cette classe-là, on l'a étudiée avec un système théorique marxiste, c'est-à-dire où véritablement on travaille au niveau de la classe sociale dans des rapports de classe où, comment dire, où il y a de l'antagonisme, c'est-à-dire où on ne peut pas dire on va améliorer les choses en régulant les marchés, en faisant des réformes. Nous, on pense qu'il y a vraiment un problème de système à changer, un système en tout cas qui ne nous convient pas. Et comme nous avions la chance tous les deux d'être chercheurs au CNRS, nous avons profité de cette possibilité d'avoir du temps pour enquêter. Nous avons décidé donc en 1987 de se mettre tous les deux ensemble pour travailler sur les dynasties familiales qui, malgré une révolution qui a eu lieu il y a plus de 2 siècles, continuent à détenir les pouvoirs de la France, que ce soit les familles Rothschild, Wendel, pour ne citer que quelques noms de ceux que Daladier appelait les 200 familles qui détiennent la France. C'était en 1934 et je peux vous assurer que c'est toujours pareil aujourd'hui, même si évidemment, pour que les choses perdurent, il faut que toujours tout change. Hein. Il faut toujours pourrir pour rester sur place. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est la devise des dominants. Alors le 6 mai 2007, ben, Michel et moi, on assiste à la télévision à la victoire de Nicolas Sarkozy. Puis on assiste absolument interloqué, scotché à notre écran de télévision, à la fameuse soirée du Fouquet's. Et là, on se dit, bon, la rupture va être là. C'est-à-dire que tout de suite, on perçoit que les patrons du CAC 40 vont être beaucoup plus nombreux que les hommes politiques pour fêter ce qui est quand même une victoire électorale, et que donc, on va véritablement rentrer dans la rupture du capitalisme qui va ouvrir le néolibéralisme, c'est-à-dire cette phase du développement du système capitaliste où les hommes d'affaires de l'économie et de la finance entrent, pénètrent au cœur de l'État et vont détruire ce dernier collectif que le peuple français possédait, son État, un État social-démocrate, redistributeur, protecteur des plus démunis. Cet État qui s'est beaucoup construit avec le Conseil national de la Résistance, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec le Indignez-vous de Stéphane Hessel. Donc, ce premier soir, on se dit, voilà, la rupture, elle est là. Le néolibéralisme, après Thatcher et Reagan, c'est autour de la France. Deuxième chose que nous nous disons ce soir-là, c'est le cynisme. C'est-à-dire que tout de suite, on voit qu'on est face à un pouvoir qui, cette fois-ci, va véritablement montrer une classe dominante, tel que nous l'avions écrit dans tous nos livres précédents, mais là, ça va être connu de tous, au vu et au su de tous, une classe dominante conquérante qui ne va pas hésiter à revendiquer l'argent décomplexé, qui ne va pas hésiter à s'afficher en toute décomplexion. Et troisième point important de cette soirée, c'est les effets d'annonce, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait promis qu'il irait se recueillir dans un monastère pour tenter d'habiter sa fonction. Et puis, aussitôt parjure, aussitôt élu, aussitôt la parole est contredite. Et il se retrouve le lendemain dans le jet privé de Vincent Bolloré, qui est une grande fortune de France, mais qui est surtout un client des marchés publics, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite l'oligarchie dans ses dons et ses contre-dons, dans ses conflits d'intérêts, se mettre en place au vu et au su de tous. Parce que c'est ça, souvent on nous dit, mais ce que vous racontez, c'est bien, on est OK, mais ça se passe comme ça depuis très longtemps. Non, parce que jusqu'à Nicolas Sarkozy, très honnêtement, ça se passait tout de même comme ça, mais dans la discrétion. C'est-à-dire que comme nous qui sommes disciples de Pierre Bourdieu, comme Pierre Bourdieu le disait, pour que le pouvoir fonctionne, en tout cas en France, il doit, les rouages de son fonctionnement doivent être méconnus. Et là, tout d'un coup, au contraire, on affichait les rouages de fonctionnement du pouvoir et on revendiquait des positions de droite, des positions d'argent, des positions de, il faisait dire à un Séguéla, si on n'a pas sa Rolex à 50 ans, ben c'est qu'on est un con, c'est qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on, voilà, c'est rien, hein. C'est quand même grave de voir que nous, êtres humains, on est désormais évalués à l'échelle de la Rolex, à l'échelle de l'argent, alors que bien entendu, on est porteur de valeurs infiniment plus, plus intéressantes. Donc voilà, le soir du Fouquet, on se dit trois choses. C'est le néolibéralisme, la finance va s'en prendre à l'État, hein, le dernier collectif qui nous restait, puisque déjà le reste avait été déjà bien malmené, les effets d'annonce, et là, voilà, on ne va pas être déçus. Et puis le troisième point, qu'est-ce que c'était?
Ah bon,
Ah ben tu n'écoutes pas.
Ah
Ah non! Ben le cynisme, voilà, tu vois, tu n'es.
c'est
Non,
le premier.
non,
Eh bien, vas-y, continue.
voilà, mais non. Mais fais attention parce que moi je
Oui.
viens à ton aide et toi tu dois venir à mon aide. Et le cynisme. Eh bien, vraiment, le Canard Enchaîné a titré le 7 mai, le 7 mai, non, le 7 c'est un lundi, le 8 et le 9, ça commence mal. Eh bien, pour nous, je peux vous assurer que ça commençait bien. Parce que dès le 7 mai au petit déjeuner, on a décidé, Michel et moi, de renverser le négatif en positif et de se dire on va tenir un journal quotidien de tout ce qui va être fait en faveur des plus riches. Ça a été ça notre voilà. Et ça a été la bonne idée. Ça a été la bonne idée parce que je vais vous dire les lois et les cadeaux à la faveur des nantis ont été nombreuses, ont été de tous les jours et il fallait les mémoriser. Et c'est ça l'intérêt de notre livre, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de scoop, hein, on n'a pas eu de, oui, on n'a pas eu de scoop, on n'a pas eu d'entrée particulière à l'Élysée, ni dans la Villa Montmorency où habite Carla Bruni, ni au Cap-Nègre où ils vont passer leurs vacances ensemble. Non, on a fait nos enquêtes de sociologues, on a dépouillé les journaux chaque jour, chaque semaine, différents hebdomadaires. Et on a consigné tout ça pour faire en quelque sorte le manuel du bon militant, pour faire en quelque sorte, comment dire, aussi notre objectif c'était de d'ouvrir la sociologie, les analyses du fonctionnement de la classe dominante que Michel va vous développer là bientôt, tout de suite, quand je lui donnerai la parole, au maximum de gens de notre France. Parce qu'au fond, souvent, on manque des outils de la réflexion que nous, on a uniquement parce que vous, contribuables, vous nous payez nos postes au CNRS. Hein, on ne se raconte pas d'histoire, il n'y a rien de glorieux dans notre histoire. Nous, on a du temps pour réfléchir, on a eu du temps pour faire nos enquêtes. Et puis, notre devoir, c'est évidemment aujourd'hui de vous les restituer. Donc, le 7 mai 2007, on se met au boulot et on consigne chaque jour, on suit les lois parce que, il faut suivre les dossiers. Parce que vous, on vous fait une annonce, vous êtes là au supermarché en train de pousser votre caddie et puis ensuite vous êtes pris dans les urgences de la vie quotidienne et vous passez le lendemain à l'annonce suivante et vous avez tout oublié. Tandis que nous, on vous fait suivre les lois et notamment entre le 14 et le 15 août, et le 25 et le 26 décembre. Parce que là, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui se passe au niveau législatif comme un coup tordu, comme choses qui ensuite vont avoir des conséquences terribles. Comme là, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes de Noël à propos de la réforme des retraites? Eh bien, les projets de décret qui sont en préparation, qui ont été mis au point pendant les fêtes de Noël entre le 25 et le 26 décembre, eh bien, vont faire que les gens qui vont avoir éventuellement 20% d'invalidité devront prouver qu'ils, et ça c'était pas jusqu'à présent dans les projets, devront prouver qu'ils ont eu 17 ans d'exposition à l'amiante d'affilée et devront le prouver. C'est quand même d'un cynisme absolument inouï quand on pense que les riches ne payent pratiquement plus d'impôts et que l'on défiscalise dans le même temps les indemnités des accidentés du travail. Alors, on ne peut pas nous enlever cette information importante. Une des ruptures du sarkozysme, c'est précisément cette violence dans les rapports sociaux de domination, ce cynisme qui est une source de souffrance inouïe, hein, pour ceux qui le subissent, c'est-à-dire nous tous ici réunis ce soir. Alors, je vais passer vite puisque je vois que mon quart d'heure s'épuise, et pour dire simplement que les cadeaux aux plus riches vont arriver très vite, dès le mois de juillet 2007, avec la loi TEPA, avec le bouclier fiscal qui passe de 60 à 50%, avec la défiscalisation quasi complète des droits de succession, c'est-à-dire que déjà pour les plus démunis et les classes moyennes, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de droits de succession à payer parce que ce qu'on a à transmettre à nos enfants était déjà totalement défiscalisé. Ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avec la loi TEPA, c'est véritablement la défiscalisation de la transmission des grandes fortunes de génération en génération chez les grandes fortunes. Et vous verrez dans notre livre, les niveaux de défiscalisation sont absolument considérables. Sous couvert du mérite, c'est véritablement la France de l'héritage qui est aujourd'hui aux commandes au sommet de l'État. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Ensuite, il y a eu les décorations, c'est-à-dire les cadeaux symboliques qui ont été faits à tous les amis du président de la République. Alors c'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais là c'était quand même à haute et intelligible voix quand Nicolas Sarkozy remet la médaille d'or à Stéphane Richard et qui lui dit « t'es riche, t'as une belle maison, t'as fait fortune, c'est la France que j'aime », c'est quand même lourd. Hein. Quand Nicolas Sarkozy remet la grande croix de la Légion d'honneur à Jacques Servier, dont vous avez entendu parler à cause du médiateur et de sa responsabilité quand même de peut-être centaines et de milliers de morts, et qui lui fait un discours extrêmement honorable au grand entrepreneur qu'il est, voilà, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement de l'oligarchie, qui fonctionne à travers des cadeaux sonnants et trébuchants, et puis à travers des cadeaux symboliques, parce que même si on est très riche, on a besoin de la reconnaissance symbolique, de la reconnaissance des médailles. On a besoin, comme disait Napoléon Ier qui a inventé la Légion d'honneur, on a besoin de hochets. Ce sont les hochets qui mènent le monde. Hein? Les hommes sont des êtres bien souvent immatures. Ensuite, les cadeaux ont été sous forme de nomination à tous les postes stratégiques des entreprises publiques, les Proglio, les François Pérol, les Stéphane Richard et autres Stéphane Courbit, qui, entre parenthèses, ont pour la plupart été des directeurs de cabinet ou des conseillers de Dominique Strauss-Kahn. Et ce que nous montrons aussi dans ce livre, c'est que l'oligarchie telle que Dominique Strauss-Kahn, depuis sa naissance à Neuilly, l'a construit à travers ses cercles patronaux et tout ça, recoupe pratiquement le système, la toile d'araignée tissée par Nicolas Sarkozy. Et donc, nous sommes inquiets et nous pensons que l'oligarchie peut changer son cheval, miser sur un cheval qui peut être Sarkozy à un moment donné. Et puis en 2012, parce que la situation a évolué, que le rapport de force est peut-être un peu différent, miser sur un autre oligarque dont la sensibilité de gauche, avec tous les guillemets que je mets, est au fond une variable secondaire par rapport à la variable principale. Tu es des nôtres, tu es un oligarque, tu vas défendre. Et nous racontons dans ce livre que lors d'un dîner dans le faubourg Saint-Germain, il y avait un banquier autour de la table, il y avait un banquier d'une très grande banque d'affaires, et nous lui demandons, Michel et moi, quel est son ministre de l'économie et des finances préféré. Eh bien, ça nous a fait beaucoup souffrir, ça va vous faire souffrir, c'est dans ce livre, et il nous répond du tac au tac, Pierre Bérégovoy. Et donc, nous, on dit, mais c'est pas possible, c'était un fils d'ouvrier, c'était un socialiste, tout ça. Mais il a dit, mais il a fait le boulot, c'est l'essentiel. Il a dérégulé les marchés. Voilà. Et donc, nous, notre travail, c'est pas de faire la peau à Nicolas Sarkozy. Non, c'est de faire la peau au système qu'il a porté. Et donc, bien réfléchir aux échéances électorales suivantes, ne pas croire changer en finalement le remplaçant par un cheval qui va mener le combat de manière peut-être plus perverse encore, plus insidieuse, mais plus efficace encore que ne l'a fait Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors je vais passer la parole à Michel qui va vous parler suite au constat extrêmement désenchanteur que nous faisons dans ce livre de que faire pour que ça change, pour pas qu'on soit totalement démoralisé. À toi.